Business, le luxe by BFM Business. Audrey Maubert.
Iconique Business, le luxe par BFM Business, un univers digital et une émission exclusive, intemporelle, mythique, responsable et déculpabilisée. La semaine dernière, occasion d'ailleurs d'aller chercher le replay Iconique Business, plongé dans la révolution IA. Autre défi pour le luxe en 2024, la durabilité. Un acteur aujourd'hui, Nona Source, son cofondateur Romain Bravo, est dans Iconique Business et nous explique tout dans un instant. Reportage également au Who's Next, le plus grand salon business qui regroupe pendant la Fashion Week plus de 1300 marques et des acheteurs venus du monde entier. Rencontre aussi avec une entrepreneuse, Lisa Chavy, qui a fait le choix de la lingerie, sa marque haut de gamme, désormais installée, Livy, c'est dans les désirables de la semaine. Sans oublier l'iconique capsule, phénomènes et tendances, rencontre avec le plus jeune chef de palace de France, il est au Shangri-La. C'est Iconique Business, bienvenue. Cette semaine, dans Iconique Business, Romain Bravo, cofondateur de Nona Source. Nona Source, il faut nous expliquer ce que c'est précisément. C'est une plateforme, mais pas une énième plateforme de e-commerce. Non, c'est pas du tout ça. Bonjour.
Bonjour.
Alors, expliquez-nous concrètement ce que c'est.
Alors, Nona Source, c'est une idée qui est née d'un constat. Celui qu'il y a des surplus de matières qui dorment dans les entrepôts des maisons de luxe, qui les accumulent et qui dorment dans les entrepôts. Et d'un autre constat, celui des jeunes marques et de créateurs qui sont à la recherche de beaux matériaux mais qui ne peuvent pas se les offrir pour deux raisons. La première, c'est que les prix sont élevés pour s'acheter de la qualité. Et la deuxième raison, c'est que les minimums de commandes imposés par les fournisseurs de matières sont parfois élevés. Donc, ça m'a fait penser à une solution qui puisse connecter les entrepôts des maisons de luxe avec ces jeunes créateurs et ces marques émergentes pour créer une bonne nouvelle et créer à partir de surstock. Et donc, inventer une nouvelle mode de conception de la mode.
Un changement de raisonnement, finalement, dans la création et dans la production. Partir de ce que l'on possède, finalement partir de la matière, de la ressource accessible et non l'inverse. On est un peu sous la contrainte, mais finalement, bon, c'est juste une manière de changer
le mécanisme. Le processus créatif, exactement. Aujourd'hui, on assiste à l'émergence nouveau d'un mode d'éco-conception. C'est de partir de l'existant. Donc, comment suis-je capable de créer des collections, des vêtements à partir de ressources existantes? C'est un nouveau défi créatif parce qu'on se contraint à créer sous contrainte, et donc la contrainte elle est double, elle est par les matériaux proposés, les couleurs disponibles, ainsi que la quantité qu'il reste des maisons de luxe. Et donc tout ça c'est un nouveau moteur de créativité pour répondre à des nouveaux enjeux pour créer une mode plus éthique et responsable.
Et finalement l'idée elle a germé peut-être à un moment où on se sentait un peu seul sur l'idée, mais maintenant on est complètement dans une temporalité d'actualité sur l'upcycling, la durabilité. C'est finalement ce que certaines marques, certains créateurs vont directement chercher.
Exactement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de plus en plus de jeunes créateurs sont dans une mode nouvelle, dans une conceptualisation de la mode nouvelle et veulent favoriser l'upcycling ou le réemploi. Nous, on s'inscrit vraiment dans une démarche de réemploi. Donc, on soutient ces nouveaux acteurs qui veulent inventer une mode nouvelle et contribuer à une mode plus responsable et éthique.
Finalement, ces surplus, ces stocks dormants, à l'époque, ils étaient, et encore aujourd'hui, ils étaient si importants. On ne savait pas mesurer et répondre au mieux aux besoins à la bonne quantité.
Alors, c'est-à-dire que le reste est inhérent au processus de création d'une collection.
De création, finalement. On commande plus, on a besoin de plus.
Et le pire pour une marque serait de créer des vêtements dont elle n'a pas l'utilité avec des restes de matière. Donc, ça a créé une opportunité, c'est-à-dire que ces restes sont inhérents au processus créatif et industriel. Et donc, autant qu'ils réintègrent un nouveau cycle de production auprès de jeunes créateurs de marques émergentes ou établies qui en ont besoin pour minimiser leur empreinte carbone et environnementale en ne faisant pas recréer de nouvelles matières qui dorment finalement dans les entrepôts des plus grands. Et ces matières, elles ont augmenté au fur et à mesure du temps, puisque les maisons sont en croissance. Et donc, qui veut dire croissance dit augmentation des Bien volumes sûr. D'achat et donc des restes pour lesquels il faut retrouver, il faut les revaloriser et leur donner une seconde vie.
On trouve toutes les matières. Est-ce que même pour ces créateurs, il y a une bataille sur certaines matières ? Alors, il y a la perle rare, le Graal.
Alors, à chaque ce qu'on appelle mise en ligne, effectivement, il y a des matières iconiques qui sont sold out en quelques minutes. Mais il y a une diversité très, très grande de matières puisqu'on travaille avec plus de 14 maisons de luxe. Mmh. Aujourd'hui, on est intégré chez LVMH, mais on est ouvert à l'ensemble des maisons de luxe qui souhaitent participer à cette mode nouvelle. Et donc, on travaille avec 14 maisons aujourd'hui qui ont un ADN et une diversité dans leurs collections qui sont très riches et donc qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une multitude de matériaux, que ce soit des soieries, des cotonnades, des lainages, des matières techniques, du jersey, de la maille, pour pouvoir faire une multitude de collections d'un point de vue créatif et qualitatif.
Eva Jacquot, elle s'est rendue au salon Who's Next, grand salon business pendant la Fashion Week parisienne, des centaines de marques et des acheteurs du monde entier. On la retrouve dans ce reportage.
C'est la 34e édition de ce salon, le Who's Next. Au total, 1800 marques internationales, dont accessoires prêt-à-porter ou encore lingerie, dont 30% de nouveautés cette année. C'est ici que les acheteurs du monde entier viennent chercher les dernières tendances. Alors nous sommes ici dans le plus grand événement business mode au monde. Qu'est-ce qui se joue concrètement ici, Frédéric Moss ?
Ici, les marques viennent présenter leurs collections. C'est-à-dire elles viennent rencontrer des acheteurs du monde entier pour montrer ce qu'elles viennent de créer et ensuite leur permettre de les distribuer aux quatre coins du monde.
Quelles sont les tendances que vous notez ici à cette saison ? Est-ce que par exemple la tendance du quiet luxury, c'est toujours d'actualité ?
Alors oui, c'est toujours d'actualité. Moi, je le rapproche aussi de plus de tailoring. C'est-à-dire, on est sorti d'années où on était extrêmement... On avait toute cette tendance sportswear et presque cocooning, hein, dû au confinement successif. Donc on était plutôt dans une mode un peu moins structurée. Là, on a envie, je pense tout le monde, de revenir sur des choses un peu plus taillées, un peu plus travaillées.
C'est vrai que vous avez une marque aussi qui est présente ici, Barbour, dont on parle beaucoup. Comment on explique ce succès ?
Alors, je dirais que c'est des marques qui sont patrimoniales, qui défendent aussi une certaine manière de travailler, un certain style, parce que c'est des styles qui sont marqués. C'est des gens qui, finalement, avaient choisi peut-être d'autres formes de développement en intégrant, en faisant des boutiques, en faisant du digital, ce qu'on peut largement comprendre. Et là, ils reviennent vers ce canal wholesale pour trouver des revendeurs dans des très belles boutiques.
Fort d'une croissance de 25%, Barbour a retrouvé ses lettres de noblesse depuis plusieurs années grâce à des séries anglaises et à des collaborations pour l'homme et la femme qui ont permis de rajeunir sa cible.
Sur de ces collaborations, que ce soit dans l'univers du luxe avec des gens comme Moncler ou Maison Chloé, ou des collaborations plus jeunes avec des maisons comme Supreme, des labels comme Noah, comme Maison Kitsune, on a eu tout un renouveau dans l'univers de l'homme.
Aujourd'hui, Barbour a 350 points de vente en France, dont la Samaritaine, le Bon Marché, le Printemps ou encore les Galeries Lafayette. Connue internationalement, la marque se développe sur les marchés européens, asiatiques et aux États-Unis.
Romain Brabo, cofondateur de Nona Source, on le disait, c'est dans l'air du temps finalement, cet enjeu de durabilité, d'upcycling, déjà parce que d'autres s'y mettent, hein. Kering a annoncé aussi une démarche pour ses ressources, pour ses nouveaux matériaux, et puis il n'y a pas si longtemps, LVMH organisait un défilé 100% upcycling. On est vraiment dans un changement, dans une redistribution des cartes.
Exactement. D'ailleurs, on a eu la chance de voir la collection de Kevin Germanier présentée à l'UNESCO lors de l'événement LVMH, où il y avait différentes manières de faire de l'éco-conception. Donc, il y avait des matériaux issus de Nona Source pour faire du réemploi. Il y avait également des tissus fabriqués à partir de déchets, donc des tissus recyclés de la société, de la start-up WeTurn. Mm-hmm. Et tout ça pour inventer une collection 100% éco-responsable, et c'était assez inédit porté par LVMH.
Ça veut dire que plus de marques s'y mettent, vos clients ne sont plus les mêmes et ils sont de plus en plus nombreux aussi pour cette plateforme ?
Clairement, ils sont de plus en plus nombreux.
Est-ce que vous arrivez à quantifier ? Est-ce que vous avez...
Oui, on assiste à un changement de paradigme. On a de plus en plus donc on a beaucoup de jeunes créateurs, de marques émergentes. On voit de plus en plus des marques établies, voire des marques à forte notoriété, comme la marque Stella McCartney,
oui,
qui se contraint à venir chez Nona Source pour faire du réemploi dans ses collections. Et donc, ça montre à quel point on peut faire aussi, avec des surplus de maisons de luxe, des collections commerciales. Et donc, oui, effectivement, on voit de plus en plus des profils très divers et variés, des artisans, des petites PME, des plus grandes marques. Donc, c'est très réjouissant.
Parce que le point d'entrée aussi, c'est certes l'engagement et la feuille de route que se fixent ces créateurs, mais c'est aussi un prix plus abordable.
Exactement. L'opportunité, c'est que c'est disponible immédiatement, mais surtout aussi que ça, c'est comme ce sont des stocks qui ont été dépréciés comptablement parce qu'ils ont dormi dans les entrepôts, ça permet de les vendre en moyenne à moins 170% des prix d'origine, donc ça donne vraiment des prix extrêmement compétitifs, et parfois même on peut monter jusqu'à moins 90% des prix d'origine. Donc ça crée une vraie opportunité financière pour la marque ou le créateur, mais surtout ça permet aussi de faire une mode plus respectueuse de l'environnement sans avoir à recréer des ressources.
Avec également une adresse physique aussi où les clients qui achètent en ligne sur le site donc peuvent aussi découvrir les matières, ça se passe à la Caserne à Paris, et puis ce rendez-vous chaque année d'une braderie pour un plus grand public et aussi pour les étudiants, donc c'est une manière aussi de les accompagner sur ce parcours dans la durabilité et le réemploi.
Exactement, donc nous le showroom est ouvert à tous les professionnels de la mode et du design, pour du tissu, prochainement pour du cuir. On a un site en ligne, nonasource.com, qui permet d'avoir une totale visibilité de l'ensemble des produits qu'on met à disposition des marques. Et on a surtout aussi vocation, parce qu'on fait de l'économie circulaire, dans l'économie circulaire, il y a l'enjeu social.
Oui.
Et dans cet enjeu social, on voulait répondre à une demande des étudiants qui ont de plus en plus de mal à se fournir des matériaux de qualité à des prix abordables. Et donc, on leur dédie une braderie annuelle sur 4 jours. On reçoit un millier d'étudiants qui viennent s'approvisionner, à qui on apprend à les critères de qualité avec des prix imbattables.
Chaque semaine dans Iconic Business, les iconiques de l'invité. C'est un peu ce que le luxe est pour Romain Brabeau et c'est très cohérent avec votre parcours et votre cœur de métier avec en premier un col roulé en cachemire, l'Europiana. Pourquoi ? Parce que la fibre, parce que la douceur, tout ça.
Exactement, oui. Et en plus, la noblesse de la fibre de chez l'Europiana, qui par ailleurs est une fibre de si grande qualité que c'est une des rares fibres de cachemire à pouvoir être recyclable.
Bon, deuxième position, vous restez très corporate avec une paire de souliers, pas n'importe lesquels.
Une paire de souliers de chez Berluti, en cuir Venezia, qui permet de pouvoir changer de couleur avec un travail de patine et un savoir-faire d'exception des artisans de la maison Berluti.
La boucle est bouclée et tout ça pour arpenter les allées de la grande épicerie. Ça fait partie d'une petite passion, c'est ça ?
Voilà, je suis passionné de mode, mais je suis aussi un fin gourmet et j'adore me rendre dans les étals de la grande épicerie pour pouvoir naviguer dans les rayons et faire des balades gourmandes et découvrir des mets d'exception.
Et on comprend. Et la grande épicerie, d'ailleurs, c'est une émission d'Iconic Business à retrouver en replay. Nous avions reçu justement le directeur général de la Grande Épicerie de Paris. Merci Romain Brabeau, cofondateur de Nonasource, d'avoir été dans Iconic Business cette semaine. Dans un instant, matière textile encore avec Lisa Chavy, fondatrice de Livy. Mais tout de suite, c'est l'Iconic Capsule, rencontre de Sarah Durand avec le plus jeune chef de palace en France. Quentin Testard, il est au Shangri-La.
Je suis au Shangri-La et aujourd'hui on va à la rencontre du chef Quentin Testard, 28 ans, c'est le plus jeune chef de palace français et on a rendez-vous avec lui à La Boïgna, le restaurant de l'hôtel.
J'ai commencé le 9 janvier, donc il y a maintenant plus d'un an. Je reste pour le moment le plus jeune chef exécutif de palace de France. J'ai certes 28 ans, mais j'ai de l'expérience, je sais où je vais, je sais comment amener mes gars à faire ce que je veux faire. On m'a déjà dit trop jeune, et ça m'a finalement jamais fermé de porte. Que ce soit ici, que ce soit au Royal Monceau avant. La Boïgna, c'est une cuisine du monde, orientée autour de la mer. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours interpellé et intrigué. C'est quelque chose que j'aime ajouter dans ma cuisine, à faire découvrir. Je trouve qu'on s'est plutôt bien trouvé, La Boïgna et moi. Mon amour pour la cuisine, déjà, vient de ma grand-mère. Ma grand-mère qui est installée en Bretagne, à Lorient. Ça a été le début du fil conducteur de mon histoire culinaire. Le pain perdu homard, c'est un plat pour moi qui rapporte beaucoup de souvenirs. C'est un plat qu'on peut aussi faire beaucoup plus simplement à la maison, comme nous on le faisait. C'est une tranche de pain juste grillée dans la poêle avec le corps du homard dessus et un peu de beurre de micelle. Là, on lui a apporté une touche un peu plus, on va dire, gastronomique, plus finie. Et c'est vraiment un souvenir d'enfance de Bretagne, quoi.
La Bretagne est surconnue pour ses galettes et ses crêpes. Le scope breton est large. Les Bretons ont toujours été un peuple de voyageurs, donc ils ont ramené beaucoup d'épices. Au final, tout match, la Bretagne, le monde, tout est lié à la Bretagne.
Iconic Business, le luxe by BFM Business.
Les désirables de la semaine, tout ce qui nous a fait envie, séduit et intrigué ces derniers jours. Notre sélection cette semaine avec Lisa Chavy, fondatrice de Livy. Bonjour.
Bonjour.
Et Nathan Cocampo qu'on retrouve avec une sélection cette semaine. On a de quoi en ce moment se nourrir de séries sur des maîtres de la mode, Balenciaga, Karl Lagerfeld, mais aussi Chanel et Dior, The New Look.
Oui, une sortie très attendue, celle de The New Look, dont voici le trailer, une sortie sur la vie donc de Christian Dior et Coco Chanel, incarnée par Juliette Binoche et à visionner sur Apple TV. Deux personnages mythiques de la mode dont on redécouvre l'histoire. On croise aussi Yves Saint Laurent, Pierre Cardin. Une plongée dans les années 40 pour tous les amoureux de la mode. Une série en 10 épisodes diffusée à partir du 14 février. Une première collaboration, Audrey, entre Louis Vuitton et la marque Timberland.
Oui, on a vu les teasings.
Oui, on a vu les teasings, notamment les classiques Yellow Boots, dont on peut voir le tampon de la maison de luxe. Ce modèle de chaussure est apparu en 1973 et donc il est réapproprié par Louis Vuitton et Pharrell Williams, directeur artistique de Louis Vuitton Homme. On a d'ailleurs aperçu ces nouvelles créations, vous l'avez dit, au dernier défilé de Pharrell Williams pour la Fashion Week, une collaboration déclinée en 10 modèles. On finit avec une belle adresse sous les étoiles parisiennes. Son nom, le Céleste, niché sur les toits du Cheval Blanc au 10e étage. Un rooftop sous forme de bulle éphémère, transparente, qui offre une vue splendide sur les toits parisiens. De quoi déguster un bon cocktail face à la Tour Eiffel. Seulement 30 places assises par soirée. Et c'est jusqu'au 31 mars.
C'est ça l'exclusivité. Merci Nathan Cocampo. On vous retrouve dès la semaine prochaine pour une prochaine sélection. Avec Lisa Chavy, fondatrice de Livy. Livy, c'est quoi? C'est de la lingerie haut de gamme ou luxe accessible? Quel est votre positionnement?
Alors Livy, c'est bien plus que
c'est
de la lingerie.
C'est bien plus que ça.
C'est bien plus que de la lingerie parce qu'aujourd'hui, on porte la lingerie différemment. On porte ça comme un bijou, comme du prêt-à-porter, ça complète une silhouette. Donc effectivement, on a du soutien-gorge. Mais on a aussi toute une gamme de produits qui permet de mettre en avant nos dessous.
C'est
du maillot de bain aussi.
C'est
d'ailleurs.
Presque là. Vous voyez les images si vous nous suivez à la télévision, évidemment. C'est presque finalement avec la force de l'accessoire aussi.
Exactement.
De la lingerie, mais pas seulement. Vous êtes plus que ça, et vous le disiez, mais c'est un label aussi.
Oui.
C'est l'ensemble.
Livy, aujourd'hui, c'est une marque et pour être une marque, il faut vivre l'expérience, il faut dégager de l'émotion, il faut avoir une parole aussi sur la place des femmes dans notre société
évidemment,
aujourd'hui.
Évidemment, un engagement.
Un engagement, bien sûr, pour leur donner confiance en elles, être elles-mêmes et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire et c'est ce qu'on recherche avec Livy.
Vous avez quoi? Un collectif d'artistes qui imaginent, qui dessinent?
Oui, on a toute un petit panel de freelance qui travaillent avec nous. On a notre bureau en interne aussi. Et moi, je suis designer d'origine, donc je prends aussi
oui,
le crayon.
Que
pour
vous fixez
designer.
L'ADN de la maison.
Exactement.
Finalement et vous fixez la feuille de route.
Exactement.
Difficile pour le textile à l'heure actuelle, le prêt-à-porter, difficile aussi pour la lingerie ou alors ces difficultés elles concernent des marques qui n'ont pas su se renouveler et proposer à toutes ces femmes une image plus moderne.
C'est ça, aujourd'hui on construit une marque sur une stratégie de différenciation, donc innover, apporter quelque chose de différent. Après, Livy est une jeune marque, donc forcément nous on est en progression d'année en année.
Vous fondez quoi, en 2017 c'est ça?
Oui, fin 2017.
Donc vous avez vu la progression, mais vous avez réussi à trouver votre cible, à trouver votre public quand même?
Oui. Ah oui, on a vraiment trouvé notre cible aujourd'hui en France et aussi en Europe, même aux États-Unis. On commence à se développer aux États-Unis aussi. Donc oui, on a vraiment rencontré notre cliente.
Et ça veut dire que la rentabilité est déjà là, il y a un chiffre d'affaires qui progresse?
Oui.
Déjà, une progression de quel ordre? Parce qu'on a tendance à voir que sur la lingerie, les paniers moyens ont tendance parfois à reculer. Certaines marques disparaissent, mais on le disait, pour certaines raisons. Et vous voyez une croissance quoi, à deux chiffres chaque année?
Oui, une croissance à deux chiffres chaque année depuis le début, entre plus 20 et plus 30% depuis la création de Livy. Et oui, Livy gagne de l'argent en 2023, donc on est très fiers de ça.
Alors, Livy, c'est une lingerie qui choisit quoi, selon l'humeur, selon l'envie. C'est le principe de base parce que vous avez dessiné ça avec trois collections, Paris, New York, Los Angeles. Finalement, trois moments de vie, trois humeurs.
Exactement, parce qu'aujourd'hui, Livy est la première marque à proposer un vestiaire de lingerie, c'est-à-dire que la femme associe sa lingerie en fonction de sa journée, de son humeur, de sa tenue. On ne porte pas la même lingerie quand on porte un jean, quand on est dans la team ou quand on va en soirée. Et Livy, justement, accompagne justement tous ces moments-là. On a même une gamme aussi de haute lingerie pour accompagner les moments d'exception, une gamme de maillots de bain pour voilà, aller sur la plage. Et on n'a plus vraiment de limite aujourd'hui non plus entre un maillot de bain, un body, un soutien-gorge ou une veste. On peut à peu près tout porter. Et on a toute une gamme aussi de prêt-à-porter qui peuvent accompagner ça, qui permettent justement de montrer sa lingerie.
Donc vous n'êtes pas touché par cette mode un peu de quelque chose de très confortable ou d'extrêmement discret ?
Alors, on a, de toute façon, aujourd'hui, le confort n'est plus vraiment une option.
Ça fait partie du
cahier des charges sur une marque haut de gamme d'avoir un produit confortable. Après, c'est sûr que si on cherche un corset qui nous cintre la taille, forcément, on cherche un peu moins le confort que sur notre ligne un peu plus décontractée, le Livy Earth Pleasure, sur lequel on a une gamme beaucoup plus détente et éco-responsable.
Avec, et c'est souvent le cas pour un certain nombre de maisons, des collaborations quoi, pour dynamiser, pour renouveler, pour donner rendez-vous à une nouvelle clientèle ou alors sa clientèle fidèle ?
Oui, alors, vu que Livy est une toute jeune marque, on a vraiment voulu attendre afin de faire une première collaboration pour installer la marque. On a fait une première collaboration à Noël dernier avec le Crazy Horse. C'était vraiment une collaboration artistique qui me tenait à cœur parce que c'était vraiment un cabaret qui était très fort pour moi, très parisien. On avait fait une collaboration avec Victoria's Secret au lancement de Livy qui nous a permis justement de s'implanter aux États-Unis.
Et d'utiliser la force de Victoria's Secret.
Et d'utiliser la force de frappe de Victoria's Secret. Alors après, on était vraiment sur la 5e avenue à New York, dans un endroit, enfin sur une rue très haut de gamme. Oui, on est en recherche là, on est en réflexion et on a plein d'idées sur de nouvelles collaborations qui sera vraiment bien maîtrisée pour pas faire la course à la collab
Et pour délivrer un message fort.
Exactement.
Une politique retail, quelle est-elle ? Des boutiques d'un côté, du e-commerce de l'autre. Quelle est la répartition en termes de vente à l'heure actuelle ?
Alors, on a le e-commerce représente à peu près 20% de notre chiffre d'affaires. Je pense qu'on ne peut plus lancer aujourd'hui une marque sans avoir vraiment un point fort pour vivre l'expérience. Donc, on a un très beau réseau de boutiques avec des très beaux emplacements qu'on a vraiment choisis minutieusement à chaque fois. Le retail aussi dans les très beaux départements de stores comme le Bon Marché, les galeries Lafayette Haussmann aussi, le Printemps. On est chez Harrods, chez Bergdorf aux États-Unis. On rentre chez Selfridges. C'était important pour moi aussi.
Des lieux stratégiques.
Exactement,
et des emplacements
la Rina Schenke à Milan, la Le Corte Inglés aussi à Marbella. Donc, on devient vraiment une marque sur ce créneau luxe accessible, leader sur le marché.
Mais ça veut dire que vous vous implantez un peu partout. Quel est votre plus gros marché encore à l'heure actuelle ? Est-ce que ça reste le marché français, européen, ou finalement c'est assez réparti ?
Alors, notre plus gros marché, c'est la France. Le deuxième, c'est en Angleterre. Et après, l'Europe, plus largement. On est pas mal présent en Russie aussi. Le contexte est un peu difficile en ce moment, mais en tout cas, on est présent là-bas. Et notre target, c'est de se développer aux États-Unis aujourd'hui.
Et vous avez choisi quand même de rester en Russie ?
Pour l'instant, on est distribué là-bas à travers un partenaire. Voilà, donc forcément, ça s'est calmé, ça a diminué, mais voilà, j'espère que tout se calmera et qu'on pourra continuer à se développer là-bas.
Le Graal, c'est d'être encore plus présent sur le marché américain ?
Oui. C'est vraiment notre objectif. On est en train de rechercher des fonds justement pour pouvoir se développer aux États-Unis.
Le panier moyen, il est plus fort quoi si c'est votre plus gros marché, est-ce que c'est les Françaises dépensent davantage ou quelles sont les plus grosses consommatrices ?
Ça dépend où. Par exemple, sur Paris, au Bon Marché, on a un gros panier moyen. On est à Saint-Tropez, à Cannes, pareil. À Londres, chez Harrods, par exemple, on a des gros tickets aussi. Voilà, un peu plus qu'en province, par exemple. Mais c'est plutôt par ville que par pays qu'on peut définir le plus gros panier.
Est-ce que l'Asie reste un relais de croissance, reste potentiellement...
Oui.
On sait que le luxe accessible et les maisons de luxe aussi,
oui,
de toute façon,
sûr,
ont comme cible l'Asie. Est-ce que pour vous aussi, est-ce que c'est facile d'y entrer ?
Voilà, on est présent à Tokyo avec un partenaire, avec Gabriel Pecco. Notre ambition, c'est d'aller en Asie. Mais voilà, dans notre plan, ce sera vraiment le coup d'après dans 3 ans. Alors après, selon les opportunités, on les étudiera. Mais ce sera plutôt le coup d'après d'aller en Asie. Après, c'est vrai que les morphologies sont différentes, ça demandera une adaptation aussi différente par rapport aux autres marchés qu'on connaît. Donc, mais oui, l'Asie, forcément, c'est quelque chose où on veut implanter aussi ce nouvel état d'esprit, là où la culture vis-à-vis de la lingerie n'est pas la même que celle qu'on connaît dans les autres continent.
Il y a ce principe de s'adapter aux morphologies. Et évidemment, la lingerie, ce n'est pas anodin. Il y a des coûts, il y a des étapes, plus d'étapes que pour un vêtement basique. Comment ça se passe pour le sourcing, pour la production et la fabrication? Comment, où est-ce que vous sourcez vos produits? Où est-ce que vous les fabriquez?
Alors, on fabrique en Asie, beaucoup. C'est vrai que c'est vraiment les plus beaux fabricants au monde, dans ce que je connais en lingerie. On fabrique aussi Maroc, Tunisie, un peu de Portugal, et un peu en France. On a notre propre atelier aussi où on produit toute la haute lingerie. C'est vrai qu'on travaille différemment entre l'Asie, si on ne propose pas du tout le même produit qu'en France, là où c'est vraiment des plus petites séries, sur des plus quantité, avec là où c'est plus avec des stocks de très belles matières françaises, où on rebrode à la main avec nos artistes, ou en Asie c'est plus des séries un peu plus longues, des choses beaucoup plus techniques, thermocollées, qui n'existent même pas en Europe aujourd'hui. Donc voilà, on travaille vraiment sur les deux, sachant qu'on a quand même un plus gros focus sur l'Asie, aussi pour apporter un prix qui soit peut-être plus intéressant et pour avoir une collection qui s'adresse à une clientèle aussi assez jeune qui peut vraiment se payer du Livy aujourd'hui. C'est vrai que la différence, voilà, c'est 2,3 fois plus cher la main-d'œuvre en France qu'en Asie. Donc on a une gamme qui représente ça, mais aussi...
Pour renouveler justement son dressing, il faut aussi aller chercher des coûts de production pour que la lingerie haut de gamme reste quand même accessible.
Accessible, voilà, c'est un produit qui, même si on veut qu'il se montre et qu'il soit voilà, visible, ça reste quand même un luxe qui reste accessible, comme peut l'être un parfum ou une paire de lunettes pour les grandes maisons. Ça reste un accessoire malgré tout, donc je veux rester voilà, une gamme accessible en prix.
Merci Lisa Chavy, fondatrice de Livy, d'avoir été dans Iconic Business, le luxe par BFM Business, exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé. C'est toutes les semaines sur BFM Business et dès à présent sur le site et les réseaux sociaux.
Iconic Business, le luxe by BFM Business.